la notion de disciple samaritain authentique de Jésus. Étienne avait ouvert cette voie-là, alors qu'il n'y avait pas auparavant de disciples de Jésus. Il y avait seulement des Juifs de Jérusalem qui étaient disciples de Jésus. Et il y a souvent un prix à payer pour l'avancement de l'Évangile ou l'avancement des mentalités. Et Étienne, ça lui a coûté sa vie. On voit que par la suite, dans Actes 8, on avait vu que Philippe, qui s'en va en Samarie, on a vu que l'annonce de l'Évangile avait produit un grand réveil chez les Samaritains. Un réveil au point où l'Église de Jérusalem, les apôtres, voici ce que ça nous dit. « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. » C'est un aspect qu'on avait vu ça la dernière fois. Et le réveil a été tellement important que les apôtres ont décidé d'envoyer Pierre et Jean pour le constater eux-mêmes. Et ils ont réalisé qu'effectivement, il y avait un réel réveil, mais que les gens avaient seulement été baptisés, en Jésus, si je peux dire. Et pour les apôtres, être disciples de Jésus, c'était de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Pour eux, sans la puissance du Saint-Esprit, ils étaient incomplets. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, on voit que les apôtres sont retournés à Jérusalem, et là, avec un autre comportement, ils viennent de constater un réveil à Samarie, que Dieu peut toucher aussi les Samaritains, ceux qui ne sont pas juifs purs. Et ils retournent en annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages samaritains. Je les imagine aller à Samarie en essayant d'éviter les villages samaritains, en essayant d'éviter de leur parler parce que c'était leur habitude. Mais au retour, où sont les Samaritains? Où sont les villages où on veut prêcher l'Évangile? Et ils se promènent systématiquement de village en village pour annoncer la bonne nouvelle de Christ parce qu'ils ont compris, à travers ce qu'ils ont vu, que le salut, c'était pour tout le monde. Et voici ce qu'on observe, c'est qu'on voit beaucoup de choses arriver. Beaucoup de signes miraculeux, c'est ce que Luc dit dans Acte 8. Il parle même de grands miracles. Donc, les miracles qui sont accomplis sont de grands miracles. On voit beaucoup de guérisons, on voit beaucoup de délivrances, on voit le baptême dans le Saint-Esprit, on voit l'intervention d'anges, où un ange apparaît à Philippe, « Lève-toi, va ». On voit aussi que Philippe est téléporté par le Saint-Esprit. Hey, cool, ça c'est le fun. Vous imaginez toutes les cônes oranges, hein, si on pouvait éviter ça? Téléporté par le Saint-Esprit du chemin de Gaza qui est désert, jusque dans Azote, au milieu de Azote. Et on voit aussi l'obéissance de Philippe, puis des apôtres, à mesure qu'ils comprennent la grandeur, et c'est plus grand qu'on pensait, de l'Évangile, de la nouvelle alliance, du salut en Jésus-Christ. Donc, tout ce que je viens de nommer, est-ce que ça ressemble à nos vies? Sinon, c'est ce que eux, pour eux, était normal. Leur vie normale, c'était toutes ces choses à être téléportées. Seigneur, vous savez, j'ai entendu encore des témoignages aujourd'hui de choses semblables qui arrivent. Et trop souvent, on pense, on a à l'esprit que c'est juste dans la Bible que ça arrive, ces choses-là. Mais la vérité est que non, ça fait partie de la nouvelle alliance. On n'a pas à rechercher ces choses-là, mais on a juste à obéir fidèlement au Seigneur, et le Seigneur s'occupe du reste. Il s'occupe de la gravité. Donc, ce réveil a aussi provoqué des réactions négatives. Et c'est là que ça nous amène ce matin à continuer dans Acte 9. Et dans Acte 9, ce qu'on voit, Saul, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre. Respirer le meurtre. Wow! Contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait, hommes ou femmes. C'est vraiment étonnant. Beaucoup de versions parlent de respirer le meurtre. J'ai vérifié, c'est le texte original. Paul respirait le meurtre. Il ne vivait que pour ça. Venger Dieu selon sa compréhension qu'il avait du judaïsme de l'époque. Il respirait le meurtre, il vivait littéralement pour ça. Étant donné que beaucoup de croyants avaient fui Jérusalem vers d'autres villes à cause justement de la menace et à cause de la persécution. Paul, parce que comme on avait vu tout à l'heure, le texte qu'on a lu précédemment, tous ceux qui ont parti sont allés prêcher l'Évangile sur la route partout où ils allaient dans d'autres villes. Et il semble que Paul a décidé de les poursuivre et de les ramener à Jérusalem. Dans Acte 20, l'apôtre Paul, on va essayer de comprendre ce fameux Saul de Tarse, parce qu'ici, il s'appelle toujours Saul. Je vais vous lire lui-même comment il donne son témoignage devant Agrippa, dans Acte 26. Il dit, « J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. » Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas. » Wow! Donc, ce fameux Saul était une terreur. Lorsqu'on lit les différents commentateurs, ce que les gens disaient de lui, c'était vraiment une terreur. Et on va essayer de comprendre c'était qui Saul, pour qu'il ait ce comportement-là. Il prenait plaisir à faire souffrir les chrétiens. Alors, qui est Saul de Tarse? Voici ce qu'il dit lui-même, on va voir tout à l'heure plus loin, mais premièrement, Saul, son témoignage est raconté 3 fois dans les Actes. On a ici dans Acte 9, on a dans Acte 22 et on a dans Acte 26. Dans Acte 22 à Jérusalem, lorsque les gens veulent, il y a une émeute et tout, il demande au tribun de pouvoir parler lorsqu'il est sur les marches de la forteresse, il s'adresse à son peuple en langue araméenne, il donne son témoignage et ensuite 26 devant Agrippa, il donne encore son témoignage. 3 fois. Donc, on met les 3 témoignages ensemble et on a vraiment une compréhension très claire de ce que Paul a vécu. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne, qu'on voit dans Acte 7. Dans Acte 7, ça dit simplement que les gens sont venus déposer leurs vêtements, mais lui-même, dans son témoignage, dans Acte 22, dit « J'ai approuvé le meurtre d'Étienne ». Et les gens sont venus déposer leurs vêtements pour que je garde leurs vêtements pendant qu'ils allaient le maltraiter. Paul était dans cette décision-là de tuer Étienne. Il nous dit clairement qu'il est né à Tarse, en Cilicie, et puis qu'il est éduqué à Jérusalem. Il en parle dans son témoignage, clairement. Il parle clairement qu'il a été éduqué au pied de Gamaliel, qui était un grand rabbin. Et il a été enseigné dans le pharisaïsme, donc c'était un pharisien. Il a été enseigné là-dedans. Et Paul a écrit un quart du Nouveau Testament. Donc, il y a vraiment un apport majeur. C'est le plus grand leader après Jésus qu'on retrouve ici dans le Nouveau Testament. Le plus grand leader, celui qui a eu le plus grand impact sur le christianisme. Il a écrit un quart du Nouveau Testament, puis un tiers du livre des Actes parle de lui. Donc, ça nous donne une idée. Voici ce que dit lui-même Paul de lui-même dans Philippiens 3:5. Il dit, « J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. » Et ça veut dire quelque chose ici. Voici ce que j'étais concernant la loi, concernant ceci, concernant cela. Donc, ailleurs, il dit pharisien de pharisien, fils de pharisien. Il a grandi à Tarse en Cilicie, donc dans la communauté helléniste, c'est-à-dire les Juifs qui habitaient dans d'autres pays. Mais il semble clair que lui faisait partie du noyau dur. Il ne se considérait pas helléniste, il se considérait hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, issu du peuple d'Israël, même s'il était éloigné, il a passé une partie de sa jeunesse à Jérusalem, au pied de Gamaliel. Ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Ici, Paul est en train de parler. En ayant vécu la grâce depuis plusieurs années, il écrit aux Philippiens. Et en ayant maintenant connu Jésus, il se considère, par rapport à la loi, irréprochable. Au niveau des règles, au niveau du judaïsme, avec ses milliers de règles à suivre, il les appliquait tous. Paul est en train de dire, j'ai été le top du top, le plus grand pratiquant, le plus grand légaliste, le plus grand religieux fondamentaliste de ma génération. Et aujourd'hui, ce genre de personne, on l'appellerait probablement un terroriste, fondamentaliste. Paul est en train de dire, j'ai été le top du top, et probablement que de sa génération, ou même à Jérusalem, il n'y en a pas un qui le battait, au sens même de la religiosité, du zèle, de l'excès. il n'y a personne qui le battait. Et lui-même mentionne, j'avais tous les pouvoirs, les chefs religieux m'ont donné tout pouvoir, m'ont donné carte blanche pour faire ce que je veux faire avec n'importe quel croyant, celui qui croit en Jésus. Et Paul ici, il mentionne ça, c'est ce qu'il était, mais au verset 7, il continue. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, il s'en vantait. C'était un gain pour lui, il disait, hey, je suis pas n'importe qui, tu parles à Saul de Tarse, hébreu né d'hébreu, pharisien, persécuteur de l'Église, zélé pour Dieu. J'ai regardé ces choses-là, pas comme un gain, mais je les regarde maintenant comme une perte à cause de Christ. Je considère tout ça comme des ordures afin de gagner Christ. Donc, Paul était vraiment, j'aimerais pas le rencontrer aujourd'hui, quelqu'un qui est son équivalent. Pas du tout. Il était extrême. Il était réellement extrême. Et vous savez quoi? C'est drôle. Parce qu'on va voir dans Acte 9 qu'il y a une rencontre avec Jésus. Mais que c'est Jésus qui le choisit, c'est pas lui qui choisit Jésus. Vous savez, réalisez-vous, ça prenait quelqu'un qui est allé au bout de la loi, dans ses moindres prescriptions, dans un zèle extrême. C'est ce que ça prenait. Quelqu'un qui est allé au bout de la loi, si je peux dire, pour être en mesure d'aller jusqu'au bout de la grâce et de découvrir, de prendre conscience de toute la plénitude de ce que la grâce nous apporte. Ça a pris l'apôtre Paul, qui s'appelait auparavant Saul de Tarse. Pour avoir ce zèle, ce courage ou cette personnalité-là pour aussi explorer la grâce. Et il a écrit les plus beaux livres théologiques, si je peux dire, les plus belles épîtres théologiques, les plus belles lettres. Lorsqu'on lit Romains, Galates, Corinthiens, il y a des richesses concernant la grâce dans toutes ces épîtres en réalité. Et même Pierre dit que certains mentionnent que, waouh, ce que Paul écrit, c'est profond. Pierre fait cette remarque-là. Certains vont trouver ça vraiment profond parce qu'effectivement, dans le même zèle qu'il a donné, qui s'est investi dans le judaïsme, ce même zèle est devenu une passion pour Christ. Sa passion, c'était Christ. Sa vie, c'était Christ. Et c'est à cause de ça qu'on a pu comprendre beaucoup mieux la grâce de Dieu. Donc, Paul pouvait dire ça, non avec ma justice. C'est pas avec ma justice qui vient de la loi, mais c'est avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ça prenait le plus grand légaliste pour être en mesure de comprendre l'extravagance de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez compris toute l'extravagance de l'œuvre que Jésus a accomplie? Paul l'appelle la justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Paul peut dire maintenant, ma justice vient de Dieu. C'est ce qu'il pouvait dire parce que c'est littéralement ce qu'il dit aux Philippiens. Je vais faire juste une petite pause ici pour te poser la question, d'où vient ta justice? Qu'est-ce qui te rassure devant Dieu? Parce que ce matin, si l'apôtre Paul était ici, voici ce qu'il dirait. Je ne vais pas me tenir devant Dieu avec ma propre justice, avec mes efforts personnels. Mais je veux ici me tenir devant Dieu avec cette justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais confié votre vie à Jésus, pris pour acquis que Jésus a tout accompli, c'est le moment maintenant de le faire. Même si je suis au milieu de la prédication, j'arrête. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, c'est maintenant. Parce que vous n'y arriverez pas par vos efforts personnels. Ou même une fois avoir confié votre vie à Jésus, ce n'est pas ensuite par vos propres efforts. Parce que l'apôtre Paul a dit aux Galates, vous êtes insensés. Vous avez commencé par la foi et vous terminez par vos propres efforts. Et ce matin, si vous n'avez jamais confié votre vie à Jésus, il vous invite maintenant que vous puissiez dire, Seigneur Jésus, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, ça a été pour me sauver. J'arrête aujourd'hui de me confier dans mes efforts, de croire que si je prie assez, que si je vais à l'église à toutes les réunions, que si je jeûne, que si je fais ceci, que si je fais cela, là je vais rencontrer la justice de Dieu. Paul dit, la justice qui vient de Dieu, elle est fondée sur la foi. sur la confiance que Jésus a tout accompli. Et ce qui vient après, c'est l'acceptation, c'est la joie, c'est le privilège de servir Dieu, d'aimer Dieu, de parler avec lui à travers la prière, de le servir à travers des actes de service et de pouvoir découvrir qui il est à travers sa parole. Ce n'est plus une justice qu'on recherche, c'est une intimité qu'on désire avoir avec notre Sauveur, avec notre Papa Céleste. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu ce matin, maintenant, là où vous êtes, fermez vos yeux et dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie maintenant. Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que ce que tu as accompli à la croix, c'était complet, parfait, pour me sauver, me laver de tout péché. Alors Jésus, je te reçois maintenant. Viens dans ma vie, parce qu'à partir de maintenant, je veux te suivre. Amen. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous encourage, si vous avez fait cette prière, de le partager avec quelqu'un. Il n'y a pas de honte de confier sa vie à Jésus. Absolument pas. Mais on a besoin de prendre conscience. Et l'apôtre Paul, il a été assez extrémiste dans l'autre direction pour réaliser que dans cette direction de la grâce, il n'y aura pas mes propres œuvres. Il n'y aura pas mes efforts personnels. Et pourtant, c'est l'apôtre Paul qui dit, s'il y en a qui ont travaillé, c'est bien moi. Mais pas à mon salut. Et l'apôtre Paul, oui, il a travaillé beaucoup pour faire connaître l'amour de Dieu et tout. Ce n'était pas pour être sauvé, parce que clairement, il le déclare, justice de Dieu fondée sur ma foi en lui. Et ça n'a pas empêché Dieu de le servir. Parce que vous savez, quelquefois on dit, ah, trop de grâce, c'est pas bon. Trop de grâce, c'est pas bon. Ça rend les gens paresseux. Ça rend les gens pécheurs. Il faut sortir un petit peu le fouet, il faut sortir la punition du péché, il faut prêcher contre le péché. Certains croient plus dans le péché qu'en Dieu, certains autres croient plus dans l'ennemi qu'en Dieu aussi. Non, 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 ici on ne croit pas assez dans l'ennemi, non, non, on préfère croire en Dieu. On préfère croire que Dieu a renversé l'ennemi, qu'il est vaincu. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que l'ennemi peut avoir de l'influence sur nos vies, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai vécu 15 ans en Afrique. J'en ai rencontré toutes sortes de situations spirituelles, 1500 à 2000, ça fait quand même pas mal. J'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les saveurs. Je peux vous dire une chose, l'ennemi existe. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est plus puissant et que Dieu existe encore plus que l'ennemi. Maintenant, si on continue dans notre texte, comme il était en chemin, donc Paul parle que dans son excès de fureur, est-ce que c'était mentionné dans le verset précédent? Non. Mais à quelque part, on va le voir tout à l'heure. Dans cet excès de fureur, il allait oui, on l'avait vu tantôt, je crois. Il allait pour les chercher dans les différentes villes. Donc, Paul est en train d'aller vers Damas. Il y a cette fureur qui bouillonne en lui. Ils vont passer au cash. Ils ont voulu fuir Jérusalem à temps que je les attrape. Je vais me venger au double. Et probablement qu'il avait, il entretenait cette colère-là. Et comme il était en chemin, il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, donc ici quand on utilise le terme « Seigneur », « kurios » en grec, on parle de Jésus. « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Dans Actes 22:6, Paul parle clairement dans son témoignage, « Tout à coup, vers midi. » On est dans un pays d'Orient, vers midi, quand il n'y a aucun nuage. Vous savez, ce matin, on a laissé les lumières allumées pour être sûr que vous soyez réveillés comme il faisait sombre dehors. On a remplacé le soleil par les lumières incandescentes ici, les gros projecteurs. Mais là, Paul, à midi, sous un soleil de plomb, il voit une lumière qui est plus brillante que le soleil. Wouh! C'est quelque chose. Qu'est-ce qui peut être plus brillant que le soleil à midi? La gloire de Dieu. La présence de Dieu. Donc, la conversion de Paul, là, c'est une des manifestations les plus impressionnantes de la puissance de Dieu dans les affaires humaines qu'on trouve dans les Écritures. C'est vraiment particulier ici. Donc, Paul raconte son témoignage, et ici, c'est Luc qui raconte ce témoignage. On voit qu'il y a une lumière surnaturelle. Il y a une chute sous la puissance. Paul tombe sous la puissance du Saint-Esprit, pas seulement lui et les autres autour. Il y a une vision. Je n'ai pas résisté à la vision céleste qu'il cite. Lorsqu'il parle à Agrippa et qu'il parle de cette expérience-là dans son témoignage, il parle d'une vision céleste. Donc, à quelque part, quelque chose de vraiment puissant. On voit la nouvelle naissance. Nulle part, on voit l'apôtre Paul répéter une prière de repentance. Mais on voit ici la réaction de Paul. « Seigneur, qui es-tu? » Pourquoi est-ce que j'ai, avant d'aller plus loin dans ce sens-là, Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Paul répond « Seigneur. » Et c'était un titre d'honneur. Ça pouvait exprimer le respect, la révérence envers un empereur, un prince, un maître, pour l'esclave ou le serviteur, ou bien Dieu lui-même. Mais ici, l'apôtre Paul, à midi, sous le soleil, une lumière encore plus brillante que le soleil, lorsque Paul dit « Seigneur », il ne parle pas à un roi. Il sait que ce n'est pas Agrippa, que ce n'est pas quelqu'un d'autre de grand qui a essayé de faire un effet spécial. Il est conscient qu'il est devant le surnaturel. Alors Paul répond « Seigneur, qui es-tu? » C'est intéressant parce que Paul persécutait les croyants, pas Jésus. Comment Jésus pouvait-il dire « Pourquoi me persécutes-tu? » Intéressant. Vous savez, dans 2 Corinthiens 6, 16, on lit « Nous sommes le temple du Dieu vivant. » Dans Matthieu 25, verset 40, Jésus lui-même dit « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je trouve ça intéressant. On va prendre un moment pour comprendre ça. Réalisez, Jésus est parfaitement au courant de ce que vous vivez. Des injustices que vous avez pu endurer. Il est parfaitement au courant et il le vit à vos côtés. Et il vous appelle à placer votre confiance en lui. Trop souvent, la plainte que je reçois concernant Dieu, parce qu'être pasteur, c'est des fois, ça ressemble à être au département des plaintes. Des plaintes contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu n'es pas là? Seigneur, où es-tu? Seigneur, où tu étais? Et qu'importe. C'est souvent des plaintes qui reviennent. Mais ici, Jésus dit, tu me persécutes, Saul. Et pourtant, Saul aurait pu dire, Seigneur, je ne te persécute pas. C'est cette gang de matawins-là que je persécute. Et Jésus, clairement, le prend personnel. Parce que lui-même l'a dit, chaque fois qu'une de ces choses est faite envers l'un des plus petits, c'est à moi qu'elle est faite. Et je veux juste vous rappeler ça. Dieu connaît ta situation. Il connaît tes doutes. Il connaît tes craintes. Il connaît là où tu as de la difficulté à croire en lui. Il vit ces choses-là à tes côtés. Et il t'appelle à placer ta confiance en lui, en toute situation. Et on peut lui faire confiance. Au lieu de dire, Seigneur, tu n'étais pas là, de dire, Seigneur, merci d'être là avec moi. Fais-moi prendre conscience de ta présence. Saint-Esprit, viens m'apporter ta paix parce que je sais que tu es là et que tu vis cette situation-là et que tu la connais. Et ça va changer notre expérience, je peux vous le dire. Il y a un autre aspect intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu parle aux êtres humains. Saul a entendu la voix de Dieu, et ici Luc en parle, mais ça n'implique pas que Dieu est limité ou Dieu a limité ça seulement aux personnes qui sont dans la Bible. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Comment, et je vais toucher ce point-là. Donc, parce qu'ici, Jésus parle avec Saul. Ensuite, on va voir tout à l'heure que Jésus parle avec Ananias, un disciple, qui n'est pas l'Ananias qu'on voit dans les Actes, acte 5, un autre disciple à Damas. Et que Dieu dit à Ananias, qui a aussi parlé à Paul, qui lui a donné une vision pendant qu'il est aveugle, pendant ces trois jours qu'on va voir tout à l'heure, que aussi à Paul, il lui a parlé à Paul, ou à Saul, parce qu'on l'appelle Saul dans cette période-là, mettons. On voit que Dieu parle. Et trop souvent, on passe à côté de ces choses-là. Ça nous coule comme sur le dos d'un canard et on ne prend pas attention que Dieu est l'être le plus bavard. Et il désire nous parler, nous communiquer. Comment évaluer si une parole vient de Dieu? Je veux juste toucher ce point-là ce matin, faire une parenthèse là-dessus. Voici comment je le vois. L'Église fonctionne comme le corps de Christ et chaque membre individuellement fait partie du corps qui est un tout. Lorsque le corps de Christ fonctionne bien et que le fruit de l'esprit est normal, aussi normal qu'il doit l'être, comme on le voit dans les évangiles, les personnes qui croient avoir entendu la voix de Dieu vont chercher la confirmation des autres afin de grandir dans leur discernement. Le fait d'entendre la voix de Dieu ne nous élève pas au-dessus des autres. C'est souvent ce qu'on a vu dans l'Église en général, et je ne parle pas ici, mais avec un grand E. Dieu m'a dit, je ne peux plus rien dire contre ça, parce que Dieu m'a dit. Et à quelque part, si on veut apprendre, voici à quoi ressemble entendre la voix de Dieu. Je vais essayer de vous l'illustrer. J'étais en prière il y a de ça un petit moment, et tout à coup, voici comment je l'ai vu. C'est vous, ça. Je l'ai dépeint d'une manière assez vague, comme ça vous pouvez tous vous identifier, mettons. Supposons que ça vous représente. C'est très simple, Dieu vous parle. C'est simple, Dieu, il parle. Dieu étant un être spirituel, nous sommes esprit. Notre esprit est né de nouveau à la nouvelle naissance. Notre esprit a repris vie. Cet aspect de notre intérieur où on peut parler là où est le siège de notre pensée, de notre imagination, étant donné que Dieu est un être spirituel, et il va nous parler dans notre pensée. Lorsqu'on dit que Dieu me parle, c'est que lorsqu'il dépose sa pensée dans notre pensée, quelquefois, c'est tellement clair que c'est pareil comme une parole, je dirais même audible. Et souvent, on dit « Dieu me parle », souvent Dieu va placer aussi une pensée dans notre cœur, une impression. Mais c'est comme ça. Donc, à la base, c'est simple. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'ennemi qui veut nous souffler différentes pensées pour nous éviter de saisir la pensée de Dieu. Tout comme la première fois que j'ai entendu l'Évangile et que j'ai fait un pas en arrière. Non, je ne suis pas prêt. Dès que j'ai monté dans mon véhicule, j'ai entendu cette voix intérieure qui dit « Ah, Gaétan, oublie ça. Dieu n'a pas la puissance pour changer ta vie. » Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle comme ça. Mais je ne savais pas c'était qui. J'ai cru. Malheureusement, il n'y a pas juste l'ennemi, il y a aussi nos pensées, nos croyances, puis nos désirs qui vont interférer aussi. Donc, on a plusieurs voix, finalement, qui essaient de nous parler. Quand je parle de nos pensées, ce qu'on pense sur un sujet aura une influence. Quand je parle de nos croyances, toutes nos expériences de vie, bonnes ou mauvaises, nous ont amené à tirer une conclusion. Quand c'est mauvais, une mauvaise expérience, quelquefois on se dit « Non, 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 je vais me débrouiller tout seul, je ne peux pas faire confiance à personne. » Je vais me renfermer. Non, non, je ne veux pas être blessé à nouveau. Et toute cette réaction-là de protection face à une situation négative nous amène à croire qu'on ne peut pas se fier aux gens, qu'on ne peut pas se fier à Dieu. Il n'est pas au rendez-vous quand on en a besoin. C'est un mensonge, mais on le croit. Et si on le croit, ça devient une vérité pour nous. Et nos désirs de la même manière. Je désire tellement que c'est facile que mon désir puisse interférer avec ce que Dieu veut me dire. Ce désir-là devient tellement grand, et Ézéchiel parle d'une idole dans notre cœur. Littéralement, ça représente une idole qui est plus grande que Dieu, parce que ce désir-là est là, ou une situation qui est grande. Donc, Dieu nous parle, l'ennemi nous souffle toutes sortes de pensées, il y a ce que nous-mêmes nous pensons, ce que nous pensons de Dieu, ce que nous pensons des autres, ce que nous croyons de Dieu, des autres, ce que nous croyons de nous-mêmes. Tout à coup, ça devient que ça fait, je dirais, beaucoup d'interférences. Et on peut comparer ça à différents postes de radio, qui sont chacun syntonisés à une fréquence différente et qui jouent à plein volume dans la même pièce. Ici, j'en ai mis juste 6 par souci d'espace. Imagine que chacune de ces pensées, chacune de ces croyances, de ces désirs intenses représente un poste qui joue. Dieu représente aussi un poste qui joue. À un moment donné, ça fait tellement d'interférences que ça devient difficile de discriminer, si je peux dire. Laissez-moi vous l'illustrer, OK? Donc, j'ai branché mon ordi ce matin sur l'audio. Je vous fais jouer quelque chose, vous me dites si vous le reconnaissez. C'est parti, tu peux mettre le volume. J'en entends rien, on va reprendre s'il le faut.
C'est le cœur qui l'a vu. Pour les premiers chrétiens, bon. C'était la relation. Alors, Pierre dit...
On revient.
Voilà. Les valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu. Pierre réagit.
Vous reconnaissez cette voix?
Mais qu'est-ce qui se passe avec ton cœur?
C'est une petite révision d'un autre. Vous avez reconnu c'est qui? C'est moi-même. OK? Deuxième essai.
Le terrain a établi qu'on n'arrive pas dans une relation violente,
dans un endroit où il y a juste un vacuum ici,
mais ça en affaire en danger
dans un terrain qui est déjà
pas seulement superficiel.
Vous avez peut-être reconnu encore l'intonation. Avez-vous compris une phrase complète? Il y avait 3 voix. trois fois Gaétan, qui est en train de prêcher sur le livre des Actes. On parle du même sujet, on parle du livre des Actes. Une dernière, OK? C'est parti.
Parce qu'on avait l'air de bon remarque, c'est une relation de l'époque, on appelait Montréal la ville.
Je reprends. Essayez de comprendre une phrase complète, s'il vous plaît. OK. Est-ce que quelqu'un a réussi à retenir? Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette capacité qu'on appelle de discrimination, de se concentrer sur un des thèmes de voix, parce que chacune de mes voix a été enregistrée dans des settings un peu différents. Quelqu'un pourrait être capable de se concentrer puis de retenir. Est-ce qu'il y en a un qui a, est-ce que quelqu'un a réussi? OK. À un moment où il y avait une pause dans les autres bandes sonores, ce que vous venez d'entendre, ça ressemble à un meeting de... Hey, écoute, non. J'embarque pas là-dedans. Ça ressemble à certains meetings. OK. Ce qu'on a besoin de comprendre, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça devient de plus en plus difficile à discerner la voix de Dieu au milieu de toutes ces interférences-là. Et Dieu, lui, c'est pas ce qu'il désire en réalité. Dieu désire que vous puissiez faire taire les interférences une à une, et que doucement, sa voix devienne de plus en plus claire, même s'il chuchote. 1 Corinthiens 14, verset 29. Concernant une parole qui vient de Dieu, voici ce que l'apôtre Paul dit. « Quant à ceux qui apportent des messages inspirés par Dieu, que deux ou trois prennent la parole et que les autres écoutent attentivement en exerçant leur don de discernement. » Dans la parole second 21, ça dit « et que les autres évaluent leur message ». Donc, l'apôtre Paul dit clairement, lorsqu'on a des messages à porter en langue, on évalue aussi en même temps. Pourquoi? Parce que, à cause de ces interférences-là, on peut se tromper. Maintenant, il y a trois questions à poser qui vont nous aider à prendre conscience qu'il peut y arriver des interférences. Trois questions importantes à se poser pour être capable de mieux discerner la voix de Dieu. La première question, c'est très simple, est-ce que c'est une parole vraie? Ce que je veux dire, est-ce que c'est une parole vraie? Est-ce que j'ai confondu avec une pensée intérieure personnelle, avec l'ennemi? Est-ce qu'il y avait plus d'émotion que de révélation? Est-ce que j'étais dans un moment d'émotion intense? Si oui, j'ai besoin de prendre ça avec mesure. Parce que quelque part, mes émotions peuvent avoir interféré avec ce que Dieu désirait réellement me dire. Donc, on doit être assez humble pour admettre que ce sont toujours des possibilités. Lorsqu'on partage la parole de Dieu, lorsqu'on partage une impression, lorsqu'on partage une pensée, on le partage sans... Vous savez, lorsque quelqu'un partage quelque chose, le pasteur rencontre cette personne et donne des conseils et que la personne change d'église. Ce n'est pas de l'humilité ni de l'ouverture puisque Paul nous donne cet indice-là. Si à quelque part je me sens offusqué de ce que quelqu'un me dit, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. De dire, écoute, c'est Dieu qui a parlé. Si c'est notre réaction, c'est que notre identité est là-dedans. Vous savez, le seul signe qui fait qu'on sait qu'on est toujours en train de grandir dans le Seigneur, dans la foi, c'est le fruit de l'Esprit. La patience, la douceur. La marque qui démontre que j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, d'une manière conséquente, c'est le fruit de l'Esprit. Toutes ces qualités-là qu'on retrouve dans Galates 6. Donc, est-ce que c'est une parole vraie? Deuxièmement, est-ce que l'interprétation est exacte? Parce qu'il y a le message, il y a le sens que je lui donne, et il y a l'application que je crois que je dois apporter. Et à quelque part, dans ces choses-là, on doit garder une réserve de dire, « Seigneur, est-ce que j'ai fait taire les radios autour ou bien j'ai mélangé une ou deux radios avec ta voix? Est-ce qu'il y a d'autres voix qui ont interféré? » Donc, l'interprétation, est-ce qu'elle est exacte? Même si les mots ont été correctement entendus, il faut prendre soin d'extraire le sens en particulier, surtout lorsque les mots sont sous une forme où on n'est pas habitué, parabolique, ou même quand c'est un songe, un rêve. On a à porter attention à ça. tout comme moi, j'ai eu plusieurs songes, je me disais, ça n'a pas d'allure, des songes qui m'ont troublé. Seigneur, est-ce que tu veux complètement réorienter mon ministère? Et lors d'un dernier songe que j'avais eu, ça date d'il y a 2 ans, j'ai dit, Seigneur, là, il était 4 heures du matin, je me réveille, je m'assois et j'ai dit, Seigneur, tu as toute mon attention. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Et tout à coup, le Seigneur me dit, Gaëtan, vois-le comme un fruit. Hein? Un fruit. Vois-le comme un fruit, le fruit de, du temps que tu passes dans ma présence. Gaëtan, je veux juste te communiquer mon cœur. Et tout à coup, ça a réaligné l'interprétation que j'avais donnée aux 5 premiers songes qui m'avaient vraiment interpellé. Tout à coup, tout a pris un autre sens parce que quelque part, j'ai compris l'interprétation que Dieu voulait que j'en donne, que j'y apporte. Et quelquefois, c'est avec les frères et sœurs matures. Donc, l'interprétation qu'on en donne. Si je crois que Dieu est juge, que Dieu est constamment là avec le fouet, ben, je vais écouter une parole et je vais lui donner ce sens-là. Si c'est dans l'autre sens, je vais tirer dans l'autre sens. Et c'est délicat. La troisième aspect, comment est-ce que ça doit être appliqué? Tout en partie, est-ce que ça doit être communiqué aux autres? Est-ce que, Seigneur, tu m'as parlé à moi-même pour moi? Quel est le moment choisi par Dieu pour l'application? Je donne un exemple de quelqu'un qui s'est trompé. Je me sens à l'aise parce que c'est dans la Bible. Étienne raconte l'histoire de Moïse, dans Acte 7. Il dit, à 40 ans, Moïse a senti dans son cœur, ou dans une autre manière, Moïse a compris que Dieu l'appelait à délivrer son peuple. Êtes-vous d'accord avec moi que Dieu a appelé Moïse à délivrer son peuple? On est d'accord jusque-là, hein? Alors, Moïse prend cette parole-là ou cette conviction-là. Il sort dehors, il voit deux de ses amis ou de son peuple se faire maltraiter. Il tue l'Égyptien. Et Étienne dit, Moïse, il s'est dit, ils vont comprendre que Dieu m'a envoyé pour les délivrer. Mais Étienne dit aussi, eux, ils n'ont rien compris. 40 ans plus tard, Moïse est en train de garder les moutons. Et tout à coup, il voit un buisson en feu. Il s'approche. Et là, c'est Dieu qui attire son attention pour lui parler. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, « Maintenant, va. Je suis descendu pour délivrer mon peuple, donc maintenant, va de ma part délivrer mon peuple. » Le maintenant de Dieu était 40 ans plus tard. Donc, cette fameuse application. Est-ce que Moïse avait bien compris le message? Oui, il sentait dans son cœur, c'était exact. L'interprétation qu'il a donnée, il croyait que ça reposait sur ses propres forces. En 40 ans, il a appris que ça ne dépendait pas de lui, que c'est Dieu. Il devait placer sa confiance en Dieu. Et le maintenant de Dieu était 40 ans plus tard. Donc, c'est un exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la précision dans chacune de ces étapes, va dépendre de notre santé spirituelle. De là, c'est important de vraiment prendre du temps dans la présence de Dieu. Jésus a dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. » Donc, pour devenir plus précis et que cette voix devienne un peu plus claire, même lorsque Dieu souffle doucement, si les autres radios sont éteintes parce que ma santé spirituelle va bien, parce que je suis allé chercher toute la guérison que j'avais besoin, je me suis assuré de ne pas croire différentes choses qui ne sont pas fondées sur la vérité de Dieu. Et graduellement, à mesure que je marche dans cette santé spirituelle, tout à coup, le discernement de sa voix devient plus facile. Et l'autre, c'est en pratiquant, comme un enfant qui apprend à marcher. Jésus dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Donc, comment grandir? Dans ce discernement-là, passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans la présence de Dieu. C'est le but de chaque rencontre de prière, louange et adoration du dernier vendredi de chaque mois. Nous n'étions pas très nombreux cette semaine et pourtant j'ai passé un temps formidable. J'ai jasé avec Dieu. Et le but, c'est justement ça. Si nous allons dans sa présence que lorsque ça va mal, lorsque j'ai besoin de quelque chose, on ne va pas prendre plaisir dans sa présence et discerner, entendre sa voix. On s'en va pour qu'un besoin soit rencontré. Et à chaque dernier vendredi du mois, vous êtes invité. On en parle depuis assez longtemps. Vous êtes invité à venir passer du temps dans sa présence. C'est une rencontre qui n'est pas rigide, coulée dans le béton.
Il y a de la musique de fond qui joue. On prie dans le sens qu'on veut prier. On lit la parole. On loue. Qu'importe. On passe un moment dans la présence de Dieu. Et je vous dis une chose. C'est un incontournable. C'est juste un incontournable. Un autre aspect, posez-lui la question plus souvent. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Si le pasteur dit que Dieu veut te parler, ben, demande-lui ce qu'il veut te dire. Ou toi-même, engage la conversation avec lui. Tout à l'heure, je voulais faire quelque chose justement d'intéressant. Puisque je touche le sujet, un autre aspect, c'est de lire et d'étudier le sujet. Et je voulais justement mentionner qui a son anniversaire ce matin. À part Esther, il y a des livres intéressants. C'est ton anniversaire, sœur, aujourd'hui? Gloire à Dieu. Soyez bénis, mesdames. Je voulais vous donner un livre qui s'appelle « À l'écoute de Dieu » de notre pasteur David Théry. Tiens, tu peux donner aussi à notre sœur. Très bon livre, donc, de lire sur le sujet. C'est un très bon enseignant qui rend les choses très simples. Et si jamais vous l'avez déjà, donnez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. OK. Revenons. Acte 9, versets 6 à 9. « Lève-toi, entre dans la ville et là, on te dira quoi faire. Ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. » Je trouve ça intéressant. Jésus a passé 3 jours aussi dans le tombeau. Et ici, l'apôtre Paul passe 3 jours complètement dans les ténèbres. Vous savez quoi? Il s'est passé des choses pendant ces 3 journées d'attente. Je suis convaincu. Puisque Dieu dit à Ananias qu'il a déjà parlé à Saul dans ce moment-là, qu'il lui a donné une vision. Et à quelque part, lorsque Paul parle des ténèbres et de la lumière, il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans. Donc, malgré la fureur qui avait motivé Saul à se rendre à Damas, tout à coup, il n'a plus le contrôle de la situation. C'est maintenant Jésus qui dit, « OK, Paul, lève-toi. Va-t'en à Damas, on va te dire quoi faire. » Et Saul n'a absolument rien à faire, il obéit parce qu'il est conscient que tout à coup, il y a vraiment quelqu'un qui règne, puis c'est pas lui. C'est pas lui qui règne. On continue rapidement. « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. » Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Hey, je trouve ça le fun, hein? Dans une vision. Ananias, il est juste pas surpris. « Oh, oui, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? » Oh, c'est trop cool, j'aime ça. Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. » Donc, il est précis. « Demande quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. » En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias, entrer, poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Écoute, là, c'est Jésus qui est en train de parler à Ananias. Je ne crois pas que Jésus est en train de mentir. Même si ça n'a pas été cité ailleurs, Jésus lui dit, ou le Seigneur lui dit, écoute, je lui ai donné une vision. Il t'attend. D'un côté, il dit à Saul, tu t'en vas à Damas, puis on va te dire quoi faire. Il va parler à Ananias, mais il dit à Ananias, en passant, je lui ai dit que tu t'en venais. Je lui ai expliqué qui tu étais. C'est intéressant parce que Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Ananias donc répond au Seigneur, « Seigneur, tu me demandes-tu de faire une opération kamikaze? » C'est-tu une opération suicide? Je veux le savoir, là. Parce que là, tu me demandes d'aller voir le pire des meurtriers, le plus extrême des extrémistes pharisiens. Donc, sa réaction est un peu comme la nôtre. Nous, on va le dire différemment. Seigneur, tu n'es pas au courant. Vous savez, comme les apôtres qui marchent sur leur chemin d'Emmaüs, Jésus les accompagne, puis lui, il n'est pas tout triste, puis ils lui disent, mais... T'es-tu le seul à pas savoir ce qui se passe pour voir si Jésus a pas su ce que ça faisait de se faire crucifier? Mais Jésus leur répond, racontez-nous. Racontez-moi ça, là. Et trop souvent, on pense que Dieu est juste pas au courant ou bien que Dieu comprend pas. Seigneur, tu comprends pas la gravité de la situation.
Là, là, ça va te prendre vraiment un miracle. Seigneur, il faut que tu démontres ta puissance. Ou bien, Seigneur, mais n'importe quoi. Quelquefois, notre réaction, elle est très humaine. Et sa réaction à Ananias, elle est humaine. Écoute, Seigneur, là, si j'ai bien compris, tu me demandes d'aller parler au gars qui a la possibilité de me tuer. Il a les lettres, il a l'autorité pour me tuer, si je parle de Jésus. Puis tu me demandes d'aller prier pour lui pour qu'il retrouve la vue. OK. Et c'est effectivement ça. Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Comme si les rôles sont inversés maintenant. Donc, Dieu rassure Ananias et lui dit, « Ananias, je sais tout ça, tout ce que tu viens de me dire, et je suis en contrôle. Je l'ai choisi. » Alors que Saül pensait venir assouvir sa vengeance, Dieu, dans sa bonté, l'a choisi comme un instrument. On continue. Ananias partit. Donc, Ananias obéit. Gloire à Dieu. Dieu lui révèle quelque chose. Ananias veut vraiment être sûr de son coup. « Oui, tu me demandes vraiment ça? Oui, OK, Seigneur, j'y vais. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il passa, ou plutôt il posa les mains sur Saül en disant, « Et peut-être ici, je vais m'arrêter. » Et dès que le groupe musical peut s'avancer, je vais vous inviter à vous avancer à nouveau tout à l'heure, parce que j'aimerais qu'on termine avec un petit moment dans la présence de Dieu. Ananias partit une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Je trouve ça intéressant de quelle manière Ananias salue en obéissance à Dieu, en obéissance à ce qu'il a entendu dans cette vision de la part de Jésus. Il salue Paul en disant, « Saül, mon frère. » Le plus grand meurtrier du début de l'Église primitive. Saül, mon frère. Ananias savait que si Jésus l'avait choisi, lui aussi devait le considérer comme un frère. Si Jésus l'a choisi pour faire partie de la famille, je l'ai choisi pour faire connaître mon nom. Alors, il savait qu'il pouvait appeler Saül son frère. Et ensuite, en terminant, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et se mit aussitôt à proclamer dans la synagogue que Jésus était le Fils de Dieu, ou est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « Mais n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? » Les gens se disaient, « Wow! Mais c'est pas le gars qui tue tous les chrétiens? On est en train de l'entendre de parler. Il est en train de parler de Jésus, mais de présenter Jésus comme le Fils de Dieu. » Et je veux terminer avec ce passage-là ce matin. Et il y a un chant que j'aimerais qu'on puisse juste refaire. J'ai juste noté une phrase, « Et maintenant, je vois. » Je ne me souviens plus c'est quel chant quelque part au milieu. J'aimerais qu'on puisse prendre un petit moment tout à l'heure dans la présence de Dieu. Parce qu'ici, en terminant dans cet épisode-là qu'on va terminer ce matin, « Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. » On vient de lire au verset 19, il resta quelques jours avec les disciples à Damas. Il est juste resté quelques jours. En quelques jours, Saül est devenu un grand évangéliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a appris en 3 jours qu'il ne savait pas? Ce qui s'est passé, c'est qu'une rencontre avec Dieu change toute la perspective. Paul avait déjà toute cette connaissance pour reconnaître que Jésus était le Messie. Mais ce que ça lui prenait, c'était une rencontre personnelle avec Jésus. Et en terminant ce matin, pour beaucoup d'entre nous, on croit avoir besoin d'un puissant miracle. On croit avoir besoin quelquefois d'un renversement de situation dans nos vies ou je ne sais quoi d'autre. Oh Seigneur, là, vraiment, il va falloir que... plus d'onction, plus de puissance. Alors que peut-être ce qu'on a besoin, c'est une rencontre avec Dieu qui va changer notre perspective des choses. Jésus m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'Ananias dit à son frère Paul, à son frère Saul. Jésus m'a envoyé pour que tu sois rempli de cette plénitude du Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on consacre juste 5 minutes en terminant. Si vous devez partir, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous devez aller travailler ou quoi que ce soit, sinon, ce sera un plaisir. Tout à l'heure, on parlait de discerner la voix de Dieu, de porter attention ou d'éliminer les interférences. Il n'y a pas de raccourci. C'est dans une rencontre avec Dieu. Vous passez des moments difficiles. Vous croyez que vous n'avez pas le bon emploi. Vous croyez que vous n'avez pas le bon mari. Non, dites pas amen. Vous croyez que vous n'avez pas marié la bonne femme. Dites pas amen non plus à ça. On croit qu'on n'est pas dans la bonne situation. Mais peut-être ce qui nous manque, c'est une rencontre avec Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse chanter, qu'on puisse se lever à nos places. Ceux qui désirent venir en avant, venez. On consacre seulement 5 minutes, mais on va passer 5 minutes à prendre un moment dans la présence de Dieu. Une rencontre avec Dieu. Tout comme on fait à tous les vendredis soirs, le dernier vendredi soir du mois. Prenons un moment dans sa présence et je vais demander, Monsieur Arsenault, peux-tu éteindre le dernier bouton à droite, les gros spots? On va tamiser ça. Puis on va passer un moment dans la présence de Dieu en louange. Louons-le, parlons-lui, invitons-le à nous rencontrer dans nos besoins. Invitons-le à changer notre manière de penser, de réfléchir, quoi que ce soit. Ce dernier 5 minutes, je termine ici, je ne parlerai plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Consacrons ce moment dans la présence de Dieu. Amen.